courtes dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue et encore bonne année à vous tous. Priorité Santé s'intéresse aujourd'hui aux maladies respiratoires chez l'enfant. Asthme, bronchite, bronchiolite, ces pathologies peuvent être bénignes mais nécessitent parfois une hospitalisation en cas de détresse respiratoire. Nous parlerons également des pneumonies, de la coqueluche, de la tuberculose qui sont aussi des troubles qui peuvent toucher l'enfant. Alors à quoi sont dues les maladies respiratoires à un si jeune âge? Quelles peuvent être leurs conséquences à long terme? Comment prévenir ces troubles? Quelle prise en charge et quels conseils donner aux parents? Avec nous pour en parler, le docteur Nyan Famti, allergologue et pneumopédiatre, chef du service d'allergologie et de médecine environnementale à l'Institut Pasteur de Paris. Un téléphone si vous avez envie de participer, si vos enfants sont concernés par de tels troubles respiratoires. Toutes vos questions dès maintenant au 33 1 84 22 75 75. 33 1 84 22 75 75. Cette semaine, nous donnons encore plus que d'ordinaire la parole aux éditeurs. Alors n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aussi laisser vos messages, vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Dans cette émission, nous serons également en ligne avec le professeur Gisèle Badoum, chef de service adjoint du service de pneumologie du CHU Yalgado à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et puis, pour terminer, nous ferons le point sur la pénurie annoncée de gynécologues médicaux en France. Pour cela, nous joindrons Nicolas Dutrio, sage-femme libérale à Herblay, en région parisienne, et secrétaire général du Collège national des sages-femmes de France. Docteur Nyan Famti, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les maladies respiratoires les plus fréquentes chez les enfants?
Alors ça dépend de l'âge et puis ça dépend du moment et on va dire que vous avez d'une part les maladies aiguës, les infections aiguës respiratoires qui concernent le petit enfant jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, puis un peu plus tard, et vous avez toutes les maladies chroniques, c'est-à-dire quand les voies respiratoires deviennent trop sensibles et viennent répéter les infections. Alors chez le petit, on parle essentiellement des bronchiolites. On est dans la saison hivernale de ces bronchiolites.
Alors, qu'est-ce que c'est une bronchiolite?
Alors, une bronchiolite, c'est une mini-bronchite, si on peut dire, qui atteint le petit enfant. Ce sont les centaines de virus qui circulent actuellement dans les collectivités. Les enfants se transmettent ça très simplement.
Donc, c'est une infection virale.
Voilà, c'est un rhume. C'est le simple rhume qui, chez l'adulte, dure 2 ou 3 jours. Souvent, reste au niveau du nez, au niveau de la sphère ORL. Et alors, chez certains petits, eh bien, ce virus va se multiplier le long des voies respiratoires. Il va descendre très rapidement dans les bronches et venir infecter l'ensemble de l'arbre respiratoire. Donc, et ça va donner une bronchiolite, c'est-à-dire que l'enfant peut en fait avoir des signes de gêne respiratoire, il va tousser beaucoup, ça va siffler, on va entendre des sifflements caractéristiques, parce que comme les voies respiratoires sont bouchées, eh bien elles sont plus petites, et ça va faire un bruit à l'expiration. Je vais essayer de vous limiter, ça fait un peu le « comme ça siffle à l'expiration. Et alors, ça ressemble beaucoup au bruit que font les adultes qui ont de l'asthme lors d'une crise. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça de l'asthme du nourrisson, quand ces épisodes de bronchiolite se multipliaient. Et puis, on a choisi le chiffre de 3, puisqu'on s'est dit que quand même, à partir de 3 épisodes de bronchiolite un peu sévère, où les enfants sifflaient, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien, avaient ce qu'on appelle de l'asthme du nourrisson.
Asthme du nourrisson qui peut disparaître et qui peut rester également à l'enfance et à l'âge adulte. De nombreux auditeurs nous parlent justement de l'asthme de leur enfant. Je vous propose de joindre tout de suite une auditrice, Diane, qui est à Lomé, au Togo. Bonjour Diane.
Bonjour.
On vous écoute, Diane.
Déjà, merci de me faire participer à l'émission.
C'est un plaisir.
Donc moi, j'ai un fils de 2 ans, 5 mois bientôt. Il a fait de l'asthme. Et depuis qu'il a 2 mois, il faisait le médecin appelait ça une détresse respiratoire. Et ça sifflait, comme le docteur l'a imité tout à l'heure. Et donc, on le mettait même parfois sous oxygène parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Et donc, après, il y a eu plein d'épisodes, des crises qui... il avait des crises quasiment toutes les semaines. Et là, depuis un moment, les crises sont plutôt espacées. On peut faire un mois ou deux mois sans crise.
Mais il continue de faire des crises.
Comment ?
Mais il continue de faire des crises. Plus espacées.
Il continue de faire des crises, mais plus espacées parce qu'en ce moment, on a un traitement de fond. C'est du sulfétide, des bouffées de sulfétide. En fait, c'est des corticoïdes qu'on lui fait débouffer, en fait. C'est comme de la ventoline, mais c'est des corticoïdes plutôt. Mm-hmm. Et pendant ces crises, on lui fait débouffer de ventoline. Mais parfois, même avec la ventoline, les crises ne passent pas. Il faut se rendre à l'hôpital pour faire des séances de mobilisation. Et bon, en gros, voilà un peu quoi.
Mmh. Et je crois que vous avez une question justement pour le docteur Nyan Famti.
Justement, j'ai une question, parce que, bon, trois questions en tout. La première, c'est parce qu'en fait, lors des crises, on le met souvent sous antibiotiques, de peur que ça ne s'infecte. Et en fait, moi, ma question, c'est est-ce qu'à force de prendre des antibiotiques, ton système immunitaire ne s'amenuise pas au fur et à mesure? C'est ça ma première question. Mm-hmm. Et après, la deuxième, c'est on parle d'acide du nourrisson jusqu'à 2 ans, apparemment. Maintenant qu'il a plus de 2 ans, est-ce qu'on peut continuer par parler d'acide du nourrisson ou ça voudrait dire que mon fils, il est asthmatique?
Asthmatique pour le reste de sa vie. Le docteur Nyan Famti, alors peut-être pour la première question au sujet des antibiotiques, que peut-on répondre à Diane?
Alors, normalement, on prescrit des antibiotiques quand on a une crise sévère avec une surinfection, c'est-à-dire qu'il y a un foyer infectieux, il y a de la fièvre, et on préfère, sur un terrain fragile, donner plutôt facilement des antibiotiques. Mais on tient quand même à prévenir du fait qu'il faut utiliser le moins possible les antibiotiques, puisque la majorité de ces surinfections, de ces crises d'asthme du nourrisson sont dues à des virus, en fait, hein, qui ne sont pas sensibles à des antibiotiques.
Pour lesquels les antibiotiques ne seraient pas efficaces.
Exactement. Mais bon, je tiens quand même à rassurer Diane pour son fils, parce que la prise chronique d'antibiotiques n'aura a priori pas trop de conséquences en fait sur son organisme plus tard, et ça on a beaucoup de recul par rapport à ça. Mais effectivement, à chaque fois, il faut vraiment peser le pour et le contre le fait de mettre des antibiotiques qui risquent effectivement de générer des résistances et surtout c'est totalement inutile dans la plupart des cas.
Et alors, est-ce que son fils risque de continuer à être asthmatique?
Oui, alors, pour répondre à la deuxième question, donc on a collé cette étiquette diagnostique d'asthme du nourrisson, et c'est un terrible terme en fait, qui n'a pas forcément, va dire que cet enfant va devenir asthmatique plus tard, on peut pas dire ça. C'est la caractéristique clinique, hein, c'est-à-dire ce qu'on observe qui a fait qu'on a posé ce diagnostic. Ce n'est qu'une petite partie de ces enfants qui vont éventuellement avoir de l'asthme plus tard. Et on a des éléments, en fait, pour dire qu'il fera éventuellement de l'asthme plus tard, mais c'est très difficile à prévoir. Si les infections ont été sévères, si les épisodes ont été sévères très tôt, eh bien, on peut dire qu'effectivement, il y aura plus de risques de faire de l'asthme plus tard. Si, entre les épisodes, il y a des petits symptômes de toux, de gêne respiratoire, de sifflement, on se dira, ah, peut-être que celui-là fera de l'asthme. Mais c'est très difficile de prévoir à l'avance. Et puis, on a un terrain aussi. Si les deux parents, ou l'un des deux parents, ou dans la famille, les frères et sœurs font de l'asthme, ou s'il y a de l'allergie, eh bien, on est plus enclin à dire, bon, attention, il faut surveiller. Mais on ne peut très difficilement prévoir qu'il fera de l'asthme ou pas. C'est pour ça que le suivi avec un spécialiste,
il faut consulter,
qui connaît bien la question, la maladie, va pouvoir d'une part établir un traitement adéquat. Il faut absolument que Diane continue ce traitement anti-inflammatoire qui n'a pas d'effets secondaires, surtout si on le fait pendant la période à risque, c'est-à-dire l'hiver, notamment, enfin la période, on va dire, d'infection virale. Et puis, ça va aller de mieux en mieux. On va diminuer le risque de crise sévère, d'une part, avec ce traitement-là. D'autre part, on va diminuer le risque de répétition de ces crises en diminuant l'inflammation. Et je répète, ce traitement-là est un traitement local. Il y a extrêmement peu d'effets secondaires, surtout quand on traite bien, d'une manière, on va dire, intensive, pendant ces périodes à risque. Il y a plus de risques de le laisser sans traitement, en fait.
Diane, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez une autre question?
Oui, le docteur a répondu à mes questions, merci. La troisième et dernière question, ce sera en fait par rapport à... En fait, mon fils a une hernie ombilicale et d'être opéré. Et ça n'a pas pu se faire parce que les crises étaient trop rapprochées. Et les médecins m'ont expliqué en fait que c'était très délicat de mettre un enfant asthmatique sous anesthésie. Mmh. Et donc, je voudrais savoir ce qu'il en est parce que du coup, il n'a toujours pas été opéré. Il y a sa circoncision à faire. Il n'a toujours pas été fait non plus à cause de ce risque-là. Donc, je voudrais savoir exactement ce qu'il en est.
Docteur Nianfanti.
Alors, je pense que comme ce ne sont pas des opérations urgentes, eh bien, l'équipe opératoire, l'anesthésie, préfère en fait attendre un moment où les voies respiratoires sont calmes. C'est surtout ça. Sinon, ce n'est pas difficile en soi d'endormir un enfant qui est asthmatique. Simplement, on préfère le faire dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que il ne doit pas être enrhumé, il ne doit pas avoir un peu d'inflammation dans les bronches qui puisse effectivement aggraver ou rendre l'acte difficile. Sinon, il n'y a pas de risque supplémentaire.
Il faudra être inquiet par attendre rapport à ça. Un peu. Merci Diane pour vos questions. Nous sommes en ligne avec une autre auditrice, Christelle, à Libreville, au Gabon. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Nous vous écoutons Christelle.
Oui, merci et meilleurs vœux à vous, à toute l'équipe d'RFI.
Meilleurs vœux aussi.
Bonne année, très bonne année.
Merci. Ma préoccupation est celle de ma fille, jeune fille de 7 ans. Elle a fait une crise, elle avait 1 an, en fait 14 mois exactement. Je suis rentrée du boulot, elle était mal, vers 19h. J'ai remarqué que ses lèvres ont pâli, elles ont changé de couleur. Et quand je l'ai emmenée à l'hôpital, on me fait comprendre que non, madame, votre fille est en train de faire une crise d'asthme. J'étais dans tous mes états et puis j'ai dû consulter pratiquement tous les pédiatres de cette ville parce que je voulais avoir la confirmation du diagnostic de ma fille. Et de là, je vais découvrir que tous les autres médecins me diront que non, votre fille ne fait pas de l'asthme, elle fait de la bronchiolite.
Dont on parlait un peu plus tôt.
C'est un mot encore étrange pour moi. Je quitte de l'asthme à bronchiolite. Après, j'ai bien envie de comprendre ce que c'est la bronchiolite. Et on me rassure que non, c'est une maladie sœur à l'asthme et que cette maladie finit par partir avec le temps. Mais qu'il faut simplement administrer à l'enfant le même traitement que l'asthme. Donc, je me suis toujours posé plein de questions dans ma tête, puisque les médecins m'ont toujours rassuré que ça allait partir. Mm-hmm. Mais mon inquiétude est celle-ci. La première question est de savoir, est-ce que cette maladie va réellement partir? Parce qu'en saison de pluie, quand il pleut à Libreville, au Gabon, elle est tout le temps grippée. Donc, je peux dire qu'elle est grippée de octobre à juin.
Une grande partie de l'année. Et elle tousse aussi?
Oui, elle tousse, mais comme je vois qu'elle a des sirops très appropriés qui lui conviennent, par exemple le Pacedil comme expectorant, j'ai toujours la Ventoline, et les médecins me disent de ne pas donner régulièrement, même quand je vais en consultation, on me donne juste un expectorant, on ne me donne pas d'antibiotiques. Donc moi, la grande question, c'est de savoir, est-ce que cette maladie va partir? Parce que côté de son père, il n'y a pas d'asthmatique. Chez moi aussi, il n'y a pas d'asthmatique.
Et donc, on ne lui a pas diagnostiqué d'asthme pour l'instant?
Non, du tout. On a dit que ce sont des bronchiolites qu'elle fait. Donc je me dis quand même que comme on m'a dit que ça va finir, j'aimerais bien savoir si réellement ça va finir.
Et pourquoi elle tousse autant? Merci pour cette question, Christelle, docteur Nian Famti.
Alors, c'est extrêmement intéressant. Merci, Christelle, pour
on sent
votre...
son inquiétude, hein,
oui,
aussi.
Oui, mais c'est parce que ce sont les mots, en fait, qui provoquent ce trouble-là. Le mot d'asthme est extrêmement puissant. Et malheureusement, sous le terme d'asthme, vous avez une multitude d'expressions cliniques. Ça peut être effectivement de la toux chronique, ça peut être des symptômes à l'effort, ça peut être une gêne dans certaines circonstances, le froid, par exemple, ou à l'humidité. Dans le cadre de la fille de Christelle, eh bien, je dirais que peut-être que l'infection sévère qu'elle a eue toute petite a réveillé cette sensibilité qui n'est pas forcément présente dans sa famille, puisqu'il n'y a pas d'antécédent d'asthme ou d'allergie forcément dans la famille de Christelle ou de son mari. Mais parfois, on révèle une hyper-réactivité bronchique, c'est-à-dire une sensibilité, une hyper-sensibilité au niveau des voies respiratoires qui fait que eh bien, notre petite tousse très facilement pendant cette période-là. Et peut-être que elle a une allergie, peut-être que elle a une allergie aux acariens ou aux moisissures. Il faudrait peut-être faire des explorations dans ce sens-là. Mais le diagnostic d'asthme léger est possible dans ce cas-là, ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. Eh bien, on a de la toux comme ça, à l'effort, au froid. L'utilisation du coup de la ventoline peut être efficace dans ce cas-là. Il faut traiter au cas par cas et au coup par coup, je dirais. Est-ce que ça va durer? Eh bien, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Mais il est clair que là, il y a la prise en charge qui doit être faite de cette hyper-réactivité bronchique probable, en tout cas faire un diagnostic autour de ça. Regardez quels sont les facteurs qui peuvent la maintenir. Est-ce qu'il y a des signes de reflux? Enfin, je cite ça un peu au hasard. Est-ce qu'il y a un phénomène environnemental chez Christelle qui fait que la toux persiste?
Quel pourrait-il être, ce facteur environnemental?
Eh bien, ça pourrait être une pollution intérieure, ça peut être une allergie. On a parlé des allergies aux acariens, qui est la principale allergie qui concerne les populations urbaines notamment et qui sont sensibles sur un point de vue respiratoire. Mais à ce moment-là, il faut faire des tests allergiques, il faut faire des tests respiratoires aussi pour étayer ce diagnostic d'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire d'asthme léger finalement. C'est une question de degré en fait, hein. Sur une échelle de 0 à 5, eh bien, on serait à 1, par exemple, vous voyez, pour vous expliquer clairement. Donc, vous voyez que le terme d'asthme est un terme très général qui recouvre une palette très large, en fait, de symptômes.
Alors, aujourd'hui, un quart de la population européenne souffrirait d'allergies respiratoires contre 10% dans les années 80. Alors, cette augmentation spectaculaire est sûrement due au fait que, de nos jours, les allergies sont mieux diagnostiquées, mais on suspecte aussi beaucoup la pollution de l'air.
Oui, alors effectivement, il est mieux diagnostiqué que ça, mais il y a une augmentation qui est vraiment beaucoup plus puissante et observée en fait dans la population générale. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce qu'on arrive à mieux les diagnostiquer ou auto-diagnostiquer, mais c'est parce qu'il y a une véritable augmentation dans la population du nombre de gens allergiques. Et c'est multifactoriel. Il est difficile de dire, voilà, c'est à cause de ça ou de ça, mais effectivement, la pollution intérieure, extérieure, alimentaire, de l'air, etc., joue un rôle dans l'augmentation de ces allergies-là.
Et notamment des maladies respiratoires chez l'enfant.
Et des maladies respiratoires chez l'enfant.
Une petite question aussi qu'on n'a pas abordée, c'est le côté héréditaire de l'asthme. Beaucoup d'auditeurs s'interrogent sur notre page Facebook à ce sujet.
Alors, l'hérédité, on l'observe dans la famille, chez les parents, l'un des deux parents, ou bien les deux, chez les frères et sœurs, et parfois un petit peu plus loin, chez les oncles et tantes, on a une sensibilité respiratoire, de l'asthme, parfois de la rhinite allergique, on pourra en reparler, ou des allergies. On a très souvent, on retrouve des personnes qui réagissent au printemps, à la poussière, à l'humidité, aux animaux, et parfois pas du tout.
Mais on a un parent concerné, asthmatique, on a évidemment plus de chances, plus de risques d'avoir de l'asthme.
Exactement.
Docteur Nian Famti, vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le flash d'information sur RFI. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé, Charlie Dupiau.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous parlons des maladies respiratoires chez l'enfant. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, dans le monde, 20% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont dus à des infections respiratoires aiguës, pneumonie, mais aussi bronchite, bronchiolite. Nous en parlons en compagnie du docteur Niam Famti, allergologue et pneumopédiatre, chef du service d'allergologie et de médecine environnementale à l'Institut Pasteur de Paris, à qui vous pouvez adresser vos questions, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75. Et pour poursuivre ce débat, nous sommes en ligne avec le professeur Gisèle Badoum. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes pneumologue, chef de service adjoint du service de pneumologie au CHU Yalgado à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous êtes responsable de l'unité des grands contagieux au sein de ce service. Merci d'être en direct avec nous. Quelles sont les principales maladies respiratoires chez les enfants au Burkina ?
Merci madame. Alors, les principales maladies respiratoires chez les enfants au Burkina, c'est essentiellement l'asthme, dont nous parlions tout à l'heure dans l'émission. Les infections respiratoires hautes, et nous avons également les infections respiratoires basses, dont principalement la tuberculose, parce que nous sommes dans un pays à forte endémie tuberculeuse.
Alors la tuberculose, nous n'en avons pas encore parlé dans l'émission. Qu'est-ce que c'est ?
Allô ?
Oui, qu'est-ce que c'est que la tuberculose ?
Alors, la tuberculose, pour parler simplement, c'est une maladie infectieuse qui est contagieuse et qui est due à un bacille qu'on appelle le bacille de Koch, plus communément entendu sous le nom de quand on parle de tuberculose, ce bacille, et on l'appelle bacille de Koch tout simplement parce qu'il a été découvert par Robert Koch. Mais les gens, d'une façon plus commune, diront qu'il s'agit du germe de la tuberculose.
Voilà. Et c'est une maladie très contagieuse.
Et très contagieuse.
Mmh. On a un auditeur...
Est-ce que contamine ?
Oui, je vous écoute.
Oui. Voilà.
On a un auditeur, pardon.
C'est une maladie.
Oui, oui, allez-y, allez-y.
Ça ne s'entend pas très bien, ça coupe.
Oui, oui, allez-y, la ligne est un peu mauvaise, mais on va y arriver. Alors.
On va y arriver, voilà. Et c'est une maladie qui est contagieuse, qui se transmet essentiellement par voie aérienne, lorsque le sujet tousse, ou qu'il crache, ou qu'il parle, ou même qu'il éternue. Voilà pourquoi on dit qu'elle est très contagieuse.
Mmh. Un auditeur, Élie, nous écrit sur Facebook depuis Bukavu. Il nous demande, est-ce qu'il y a une relation entre tuberculose et asthme ? Professeur Gisèle Badoum.
Il n'y a pas de relation. Non, il n'y a pas de relation entre tuberculose et asthme. C'est deux maladies. La première, elle est infectieuse. Et la deuxième, c'est une maladie qui est... La cause, elle est soit extrinsèque, donc c'est les facteurs environnementaux, soit elle est intrinsèque. Tout à l'heure, dans l'émission, on parlait du facteur héréditaire ou bien de la toupie. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes.
Docteur Niam Famti.
C'est vrai que c'est deux maladies respiratoires,
oui.
Mais il n'y a pas de lien.
La seule relation éventuelle, c'est la vaccination. Il a été dit à un moment donné que la vaccination contre la tuberculose protégeait un petit peu contre l'asthme. Alors, je vois là le seul point commun entre les deux.
Professeur Gisèle Badoum, on parle de l'asthme, hein, beaucoup de nos auditeurs nous en parlent. Est-ce qu'il y a une période au Burkina Faso où il y a plus de crises d'asthme que d'autres ?
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de crises d'asthme que dans les autres pays ? Il faut dire que le Burkina Faso, c'est un pays où on a plusieurs saisons. Et il y a une saison particulière qu'on appelle l'harmattan, où il y a un vent sec et froid qui souffle. Et cette période, c'est du mois de octobre jusqu'en début février, même fin février.
Donc nous sommes en plein dedans.
Voilà, on est en plein là-dedans actuellement.
Est-ce qu'il y a assez de pneumologues au Burkina Faso ? Combien est-ce que vous êtes ?
Actuellement, on est à 13 pneumologues. On est à 13 pneumologues pour 16 millions d'habitants. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas assez de pneumologues au Burkina.
C'est très
peu. Le nombre est insuffisant. Oui. Et 7 pneumologues sont dans la capitale. Donc, c'est pour dire qu'on a une forte concentration dans la capitale et les autres sont dans les autres villes. En moyenne, un pneumologue par ville. Mais même, ce ne sont pas toutes les villes qui disposent d'un pneumologue.
Un nombre très insuffisant. Alors, est-ce que les médecins généralistes sont formés pour seconder les pneumologues qui sont en nombre insuffisant ?
Oui, on met vraiment l'accent sur cette formation au sein de la faculté de médecine. tout comme les autres disciplines, mais surtout dans le domaine de la pneumologie, on les forme à être plus tard des relais pour les pneumologues, et on préconise également l'enseignement de la tuberculose chez ses étudiants, tel que l'OMS l'a préconisé, parce qu'on se rend compte que ce sont des étudiants qui sont formés, mais lorsqu'ils sortent médecins et qu'ils vont sur le terrain, ils ne sont pas toujours aptes à affronter la lutte anti-tuberculose. Donc, on les forme vraiment sur ce plan pour qu'ils soient aptes à affronter la lutte anti-tuberculose et effectivement les autres maladies respiratoires.
Quelle connaissance, professeur Gisèle Badoum, les parents ont-ils des maladies respiratoires dans leur ensemble ?
Je n'ai pas tellement...
Est-ce qu'il y a des campagnes de prévention au Burkina Faso ? Est-ce que les parents connaissent les maladies respiratoires qui peuvent toucher leurs enfants ?
Les campagnes de prévention spécifiques aux maladies respiratoires, on n'en a pas beaucoup au Burkina, mais c'est surtout des campagnes qui sont intégrées. Ces informations passent à travers les médias, les émissions radio, les émissions télévisées, les journaux, et à travers aussi les campagnes de prévention dans le programme élargi de vaccination. On en parle beaucoup, voilà. Mais on ne fait pas de campagne spécifique contre les maladies respiratoires. Mais on insiste toujours sur les parents. Lorsqu'ils viennent en consultation avec leurs enfants, ces parents reçoivent des informations sur les maladies respiratoires. On a des parents qui sont eux-mêmes atteints de maladies respiratoires. On leur explique qu'est-ce que c'est ces maladies respiratoires pour qu'ils puissent être un relais auprès des enfants et auprès des populations.
Professeur Gisèle Badoum, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer aux populations ?
Le premier message que je voudrais faire passer aux populations, c'est que devant toute maladie respiratoire, il faut aller se faire consulter.
C'est la priorité.
On est souvent prompt à faire voir les enfants par les médecins, mais en oubliant que souvent la source vient des parents. Il y a des enfants qui sont malades, on pense que la maladie vient de l'enfant, alors qu'autour de lui, on a un cas qui l'a contaminé. Et lorsqu'on soigne l'enfant et qu'on ne soigne pas cet adulte, on va se retrouver dans un cercle vicieux et l'enfant est tout le temps malade. Nous prenons par exemple le cas de la tuberculose. La source souvent vient d'un adulte. On dépiste chez l'enfant, on le soigne, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne va toujours pas chez lui. C'est tout simplement parce qu'autour de lui, il y a ce cas qui est là et qui continue de semer la maladie. Il en est de même pour l'asthme aussi. Les parents asthmatiques pensent qu'ils connaissent l'asthme. Et lorsqu'ils ont des enfants asthmatiques, ils pratiquent l'automédication. Donc nous conseillons à ces parents de venir tout le temps en consultation avec cet enfant.
Consultez. Merci, professeur Gisèle Badoum. Je rappelle que vous êtes pneumologue, chef de service adjoint au service de pneumologie du CHU Yalgado à Ouagadougou, au Burkina Faso. Docteur Nyan Famti.
J'appuie totalement ce que disait ma collègue, le professeur Badoum. Il faut faire de la prévention, c'est-à-dire que l'objet principal, c'est la vaccination. Il faut vacciner les petits et les grands parce que ce sont effectivement les grands qui vont venir transmettre, notamment la coqueluche par exemple, qui est une maladie terrible qui peut vraiment tuer nos petits-enfants. Et si les adultes ne sont pas vaccinés autour, eh bien ils peuvent porter le germe, tousser et répandre le germe de la coqueluche chez nos petits-enfants.
Et le vaccin contre la coqueluche d'ailleurs est devenu obligatoire en France.
Le début de l'année en France. Et donc c'est extrêmement important d'être dans la prévention, et la vaccination des petits et des grands est très importante.
Alors on donne la parole aux auditeurs aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Marcel à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Marcel. La ligne n'a pas l'air de fonctionner. Ah oui, c'est bon. Bonjour Marcel, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Et déjà, je souhaite mes meilleurs vœux à toute l'équipe de Priorité Santé.
Meilleurs vœux également.
Merci de me donner pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer en direct de Priorité Santé.
Merci Marcel. Bonne année aussi.
Et bonne année, bonne santé.
Ok, merci. Alors là, j'ai un fils qui a actuellement 15 ans, qui a commencé à me faire des toux grasses alors qu'il était à la maternelle, il avait 3 ans. Alors, c'est le pédiatre qui a diagnostiqué, en fait, à l'époque, il m'a parlé de bronchite asthmatiforme. Alors, il m'a dit qu'il fallait que je prenne la tâche d'un pneumologue, pardon, chez Kiber, qui m'avait dirigé. Alors, nous y sommes allés et lui, il a diagnostiqué l'asthme. Bon, sauf qu'à l'époque, il m'avait dit que ce n'était pas très grave et qu'en grandissant, ça allait disparaître. Et à l'époque, il ne me faisait pas des crises, c'était des tout. Alors, la première crise, elle intervient quand il a 11 ans, il est en classe de 5e. Mmh. Et à 13 ans également, il est en classe de 3e, il me fait une deuxième crise. Et cette année, pendant que là, il est maintenant en classe de première, il y a un mois, il m'a fait une autre crise. Alors là, le pneumologue, à l'époque, nous avait dit qu'il faisait des allergies aux acariens, à l'humidité, comment je peux appeler ça, également aux moisissures. Alors, on nous a interdit les peluches, les couvertures, donc on n'a rien de tout ça chez nous. Et il n'y a pas de passé d'asthmatique dans ma famille. Alors, moi, ma première question, avant la question, je voudrais déjà dire que en termes de traitement, chaque fois, il est sous Zagutène depuis qu'il a 3 ans.
Zagutène.
Il a 3 ans. Zagutène, oui. Et puis, entre-temps, chaque fois qu'il fait une crise, c'est Ventoline, c'est Pretralan, c'est Telespen en injection.
D'accord. Alors, vous inquiétez hein, parce que vous avez le sentiment que ça s'aggrave.
Oui, je m'inquiète parce que j'ai l'impression que ça s'aggrave. Alors, Zagutène, ce sera toute une vie. Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires? Et est-ce qu'il y a lieu d'espérer qu'il guérisse de cette affection? Je préfère l'appeler ainsi.
Merci Marcel pour votre question, docteur Nyan Famti.
Alors Marcel, c'est bien que votre fils soit suivi par des spécialistes parce que apparemment il a quand même un véritable asthme et une allergie aux acariens et c'est je dirais le principal facteur qui génère tous ces symptômes. Et c'est pour ça qu'il est sous ce médicament que vous citiez, qui est un antihistaminique, un anti-allergique, qui permet de maintenir un petit peu la situation, c'est-à-dire diminuer sa réactivité. Mais bon, il est très allergique apparemment. Vous avez fait les mesures qu'il fallait pour diminuer la concentration des acariens à la maison, mais ça ne suffit pas parce qu'il est hypersensible. Et donc, très probablement, il faut se diriger vers un traitement de désensibilisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de raisonner en fait son système immunitaire qui surréagit à la présence naturelle des acariens autour de lui et qui provoque cette inflammation respiratoire et son asthme en fait. Et donc une des solutions qu'on propose ici, c'est la désensibilisation, c'est-à-dire donner des extraits naturels d'acariens pour que son organisme se réhabitue et diminue cette guerre totalement inutile que font ses voies respiratoires contre son environnement. Donc, on prescrit une désensibilisation aux acariens. D'ailleurs, ce traitement-là est un peu menacé même en métropole, puisqu'il risque d'être déremboursé. Et donc, ça favorise pas l'élargissement de ce traitement.
En tout cas, cette désensibilisation peut être un traitement de fond pour éviter en fait de nouvelles crises d'asthme.
En tout cas, chez le fils de Marcel, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui peut devenir très important. Oui.
Marcel, est-ce que vous aviez une autre question?
Oui, j'ai une autre question. Je voudrais savoir si cette désensibilisation aux acariens, ce traitement est possible chez nous.
Alors ça, il faudrait qu'on...
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Ouais.
C'est pas impossible, hein. En tout cas.
On va se renseigner et on vous tiendra au courant via les réseaux sociaux. On va voir, effectivement. Merci Marcel pour votre question. Docteur Nyan Famti, on n'a pas encore parlé des bronchites. Qu'est-ce qu'une bronchite? Comment distinguer bronchite et asthme, par exemple, ou bronchite et bronchiolite?
Eh bien, une bronchite, c'est une infection au niveau des voies respiratoires, des bronches, en fait. Et donc, ça donne de la toux, ça peut donner de la fièvre, c'est une toux souvent qui devient grasse. Et ces bronchites sont essentiellement dues à des infections virales. Mais parfois, on peut avoir une surinfection, c'est-à-dire une bactérie peut se multiplier, et c'est à ce moment-là où on a besoin de traiter par antibiotiques. Et puis, au sein de ces bronchites, qui souvent commencent par une rhinopharyngite, c'est-à-dire un rhume, et vous voyez que ça descend au niveau de la gorge et après des bronches, et vous commencez à tousser. Eh bien, une partie de gens qui font souvent des bronchites ont cette sensibilité, cette fragilité respiratoire qui est peut-être de l'asthme. Et donc, et c'est pour ça que, par exemple, le fils de Marcel, il a eu ces bronchites asthmatiformes qui, en fait, ne sont guère autres que des crises d'asthme qui sont pas forcément très sévères et qui se traduisent que par de la toux, par des crises de toux dues à des infections virales.
Et est-ce qu'il y a des moyens moyens de prévention pour les enfants qui font régulièrement des bronchites?
Alors tout à fait. Premièrement, sur la population générale, il faut absolument que l'on inculque la protection globale des personnes sensibles, c'est-à-dire des enfants et des personnes âgées. Tout simplement, quand on est enrhumé, eh bien, on fait attention. Il faudrait qu'on se mette à la mode, notamment comme les Japonais par exemple, quand on est malade, on protège les autres, on porte un petit masque, on évite d'éternuer sur tout le monde, on se rince les mains régulièrement. Et ça serait vraiment formidable qu'on puisse généraliser ça à la planète entière.
Alors nous sommes en ligne avec un auditeur, Paulin, à Lubumbashi. Bonjour Paulin.
Bonjour madame, vous allez bien?
Très bien. Et vous? On vous écoute Paulin, on n'a plus beaucoup de temps, d'accord. Alors allez-y.
D'accord. Ok, je vous appelle. J'ai un problème avec mon garçon qui a 5 ans. Ça fait 4 ans de suite qu'il a un sérieux problème des rhumes. C'est un rhume qui ne finit presque pas. Nous avons été voir le médecin, on l'a consulté, on a trouvé qu'il était allergique au pollen et à la poussière. Et nous avons pris les soins d'enlever tout ce qui a comme fleur autour.
Ah, la ligne a été coupée. Alors la ligne est mauvaise, Paulin. Je suis désolée de vous interrompre. Je vais redire ce que vous aimeriez partager avec le docteur aujourd'hui. Donc effectivement, une allergie au pollen et à la poussière. Donc les parents ont suivi les conseils du médecin. Le problème persiste. Comment faire? Donc je rappelle qu'il a 5 ans cet enfant et qu'il a un rhume depuis l'âge de 4 ans.
Alors, de ce que je comprends, le fils de Paulin a une rhinite allergique, puisque ça persiste, et puis depuis le plus jeune âge, en fait, dès l'âge de 1 an. Et donc, on est face probablement à une allergie sévère, une rhinite allergique persistante, sévère. Et apparemment, le diagnostic a été fait, des tests probablement ont été faits, et révèle une allergie aux acariens et au pollen. Donc, une double allergie respiratoire. Donc, effectivement, il faut vraiment prendre le problème à la base. Et parfois, les mesures environnementales, c'est-à-dire diminuer la concentration des acariens dans la maison avec la règle des 5A que je vais vous dire tout à l'heure.
Allons-y.
Donc il faut aérer, ça c'est extrêmement important. Mais bon, parfois c'est difficile parce que on est face à des conditions climatiques où on cherche normalement pour éviter les acariens à diminuer l'hygrométrie, l'humidité et la chaleur. Donc on demande dès qu'on se lève à ouvrir les fenêtres pour ventiler le lit. Faire l'aspirateur, le deuxième A, c'est faire le ménage régulièrement pour enlever la poussière. Aplanir les surfaces pour pouvoir faire dépoussiérer facilement. Les housses d'oreiller au moins ou de matelas anti-acariens permettent de diminuer le contact direct avec les acariens. Et puis, dans le cas du fils de Paulin, il faut probablement envisager rapidement une désensibilisation pour rééduquer son système immunitaire qui s'énerve vraiment de manière assez forte contre ces éléments normaux. Il aura beau enlever toute la végétation autour de la maison, ça ne change à rien puisque le pollen est dans l'air pendant toute cette période-là. Donc c'est vraiment extrêmement fort chez ce petit. Et donc, rapidement, je pense qu'il faut proposer une désensibilisation.
Merci Paulin en tout cas pour votre question. Ça ne fait pas partie de la règle des 5A, mais j'aimerais qu'on parle du tabagisme passif. Quelle responsabilité peut avoir le tabagisme des parents?
Et extrêmement fort. Le tabagisme passif est terrible pour les voies respiratoires, surtout pour les gens qui sont sensibles des voies respiratoires. Il vient aggraver toute maladie inflammatoire chronique. D'abord fumer dehors, mais on ne devrait pas dire ça. On devrait essayer d'arrêter de fumer. Donc là, c'est vraiment le message principal. Et donc, ça rentre dans le cadre de la maîtrise de la pollution intérieure dans les maisons. Donc, le tabagisme passif est extrêmement important, mais on a d'autres sources de pollution intérieure, des produits chimiques, l'utilisation de plein de produits qui vient irriter les voies respiratoires. Et ça, dans le service, on essaie de faire la guerre contre l'utilisation de ces produits qui viennent fragiliser les organismes.
Et puis, il ne faut pas non plus fumer devant ses enfants. Docteur Nian Famti, vous restez avec nous. Nous allons faire le point tout de suite sur la pénurie annoncée de gynécologues médicaux en France.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour Nicolas Dutriot.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme libérale à Herblay, dans le Val-d'Oise, en région parisienne. Vous êtes également secrétaire générale du Collège national des sages-femmes de France. Et vous lancez l'alerte sur une pénurie annoncée de gynécologues médicaux en France. Alors peut-être d'abord, qu'est-ce qu'on entend par gynécologues médicaux? Quelle différence avec les gynécologues obstétriciens?
Donc la différence principale, c'est que les gynécologues obstétriciens ont une spécialité chirurgicale en plus de la gynéco-médicale, qui est en fait des médecins qui étaient formés uniquement en France, qui avaient une spécialité franco-française pour assurer des soins de premier recours, mais comme peuvent le faire les sages-femmes et les médecins généralistes. Si vous prenez le suivi de grossesse, les gynécologues médicaux suivent les mêmes niveaux de risque pour les femmes enceintes que les médecins généralistes et les sages-femmes, qui doivent renvoyer du coup les femmes enceintes avec des niveaux de risque plus élevés identifiés obligatoirement gynécologue obstétricien avec la spécialité chirurgicale.
Et comment expliquer alors cette pénurie annoncée de gynécologues médicaux en France?
Eh bien, comme c'était une spécialité uniquement française, les diplômes qui ont été listés au niveau européen notamment, et pour une lecture au niveau international des spécialités médicales afin de faciliter les échanges notamment de professionnels de santé entre les pays, cette spécialité a été supprimée pour valoriser uniquement les gynécologues obstétriciens avec leur spécialité complète médicale et chirurgicale.
Alors depuis 2009, si je ne me trompe pas, les sages-femmes peuvent aussi faire les mêmes soins que les gynécologues médicaux?
Alors pas tout à fait les mêmes soins. Chez la femme qui va bien, en bonne santé, sans facteur de risque particulier, les sages-femmes peuvent suivre en premier recours le suivi de la contraception, le dépistage des cancers, que ce soit le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Mais comme on le faisait déjà dans les prémices de la grossesse, au cours de la grossesse ou à la suite de la grossesse, et si les sages-femmes pouvaient le faire pendant la grossesse, le législateur a juste émis l'idée qu'effectivement, si on le savait faire à une période particulière de la vie de la femme, avec éventuellement ses particularités spécifiques et supplémentaires, liées à l'état de grossesse ou à ses suites, on pouvait très bien le faire en dehors. Et c'est pour ça qu'en 2009, pour pallier notamment ce manque de gynécologues médicaux programmés et voulus par la réglementation, il a été fait le choix, effectivement, permettre aux sages-femmes d'assurer des suivis en dehors de la grossesse.
Donc cela veut dire que les sages-femmes peuvent pallier à ce manque de gynécologues médicaux?
En partie, du coup, chez les femmes qui vont bien, c'est-à-dire la majorité des femmes, 8 femmes sur 10 minimum dans la population générale, qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de facteurs de risque particuliers.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important pour une femme d'être suivie pendant sa grossesse.
Tout à fait, mais c'est aussi très important d'être suivie en dehors, puisque encore dans notre pays, si vous prenez en France, un tiers des grossesses est non programmée, malgré que ce soit le pays qui contracepte le plus. Donc il y a vraiment une inadéquation entre le choix contraceptif et les besoins de notre population pour avoir une grossesse sur trois qui est non programmée, ce qui explique notamment le taux d'interruption volontaire de grossesse qui ne diminue pas, puisque 2/3 des grossesses non programmées aboutiront à une demande d'interrompre la grossesse, ce qui est également possible depuis 2016 à l'aide d'une sage-femme pour les IVG médicamenteuses.
Et quelles sont alors vos attentes sur ce sujet, Nicolas Dutriot?
Et donc principalement, une communication, c'est déjà ce qu'on demandait lors du grand mouvement social qui a duré quasiment un an entre 2013 et 2014 pour les sages-femmes, c'était justement un manque d'information des patientes et que ce vécu de pénurie de gynécologues médicaux aurait dû être complété par une information en disant « il y a effectivement moins de gynécologues médicaux, mais il n'y a pas moins de suivi des patientes et moins d'accès aux soins ». Puisque les sages-femmes sont là, les médecins généralistes de plus en plus se forment également à la gynécologie, et que les gynécologues obstétriciens sont également en nombre plus nombreux pour compenser la disparition des gynécologues médicaux. Donc depuis les années 2000, il y a eu une spécialité gynécologie médicale qui a été réouverte au niveau de l'internat, mais ces spécialistes se spécialisent justement principalement dans les problèmes d'endocrinologie de la femme et la procréation médicalement assistée, donc avec une spécialisation vraiment très pointue et très précise qui va également nous être d'un grand secours lorsque c'est nécessaire.
Merci Nicolas Dutriot. Je rappelle que vous êtes sage-femme en libéral et que vous êtes secrétaire générale du Collège national des sages-femmes de France. Docteur Nyan Famti, je me tourne vers vous. Il y a aussi en France une pénurie d'allergologues.
Alors, ça touche beaucoup de spécialités, effectivement, à cause des départs à la retraite, du peu de nombre d'internes créés, notamment pour la spécialité d'allergologie, hein, qui est existante que depuis l'année dernière. Et oui, c'est étonnant, mais c'est vrai. Donc, c'est un problème mondial, avec une croissance de la gravité des symptômes.
Et avec des allergies respiratoires.
Les allergies respiratoires grave. Qui concernent les enfants. On a aussi une menace de déremboursement des traitements de désensibilisation, je l'ai dit tout à l'heure. Et les patients doivent se mobiliser pour ce problème-là qui risque aussi de peser sur la spécialité.
Merci docteur Nian Famti d'être venu dans notre studio. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Ophélie Lassen, Sigrid Azeroual. Merci aussi à tous pour votre écoute, pour vos questions, pour vos témoignages. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio RFI ou sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des maux de ventre liés à un excès d'alimentation, le sujet d'actualité après les fêtes de fin d'année. Ces maux peuvent aussi être dus au stress, ils peuvent aussi avoir une origine gynécologique, urinaire ou cardiaque. Alors, comment soigner ces maux de ventre et comment les éviter? Quelles sont les complications possibles? À partir de quand faut-il consulter un médecin? Un téléphone pour vos questions, vos témoignages dès maintenant, le 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.